France Inter, le 18-20.
Le silence ne peut plus être toléré dans l'Église, c'est le pape François qui parle et c'était ce week-end, c'est le pape François qui reparle et a demandé dans la foulée une enquête plus approfondie sur le cardinal McCarrick. Aux États-Unis, reparle parce qu'il n'a plus le choix, que les fidèles demandent action ou il risque de tourner le dos à leur Église car l'inventaire devient effroyable. L'Irlande, le Chili, l'Allemagne, l'Australie, les États-Unis donc. Et à qui le tour, les scandales de pédophilie dans l'Église catholique à une échelle ahurissante en ont fini de lasser des fidèles sans voix. On est bien au-delà aujourd'hui. Une fatigue souvent, une lassitude qui finirait par vider un peu des églises déjà si peu remplies. Le silence qui a été le credo de l'église pendant si longtemps, les fidèles ne l'acceptent plus, mais l'église l'a-t-elle compris à temps? Alors vous me direz, ben si, regardez, les scandales désormais sont dénoncés, et c'est vrai, mais ça n'est jamais l'église qui prend les devants, au contraire, ce sont les victimes et les fidèles. L'église, elle arrive en retard le plus souvent, et pas toujours avec les mots justes. Vous me direz, non mais attendez, désormais l'église dit que c'est la justice des États qui doit jouer, plus que celle de l'église qui réglait ça toute seule autrefois. C'est vrai, mais ces changements, officiellement, ils datent de 2011. Est-ce qu'ils sont réellement intégrés par les églises? Et la France, alors, des cas de pédophilie, évidemment, qu'on en trouve et on en parlera. Jamais une échelle aussi importante que les exemples récents de nos voisins plus ou moins proches. Est-ce que c'est parce que tant d'affaires sont encore cachées? Et cette pétition lancée par Témoignages Chrétiens pour la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les crimes de pédophilie dans l'église, est-ce que c'est le signe que quelque chose finira par se nouer en France? Parce que tout cela, encore une fois, c'est des fidèles que cela vient. Est-ce que ça dit simplement que l'Église a besoin d'une aide extérieure, que l'Église ne sait pas faire elle-même et qu'elle ne sait pas poser non plus les questions qui fâchent sur la sexualité, sur le célibat? Alors vous, vous la sentez comment, cette Église? Est-ce que vous l'avez désertée? Est-ce que vous la suivez toujours? Est-ce que vous sentez que l'Église sait, doit apprendre à gérer ces problèmes de pédophilie? Est-ce que vous y croyez encore en votre Église? C'est à vous de nous le dire et c'est tout de suite dans le téléphone sonne.
Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
Marc, bonsoir.
Bonsoir.
Et c'est vous le premier, Marc. Soyez le bienvenu au téléphone sonne, on vous écoute.
Merci, bonsoir France Inter, merci pour vos émissions. Voilà ce que j'en pense. Je suis d'origine polonaise. Ça fait 40 ans que je suis en France, mais j'étais né dans une famille très catholique, pratiquante. Et donc, j'allais souvent à l'église, etc. Bon, depuis cette histoire de pédophilie et la manière dont l'église appréhende ce problème... Pour moi, je suis très profondément choqué et également je suis très impatient de la réaction de l'État français parce que je considère que normalement la justice devrait être saisie mais d'une manière très énergique et avec une totale transparence de la hiérarchie de l'Église catholique. Bon, de plus, je suis un petit peu, si vous voulez, excité, entre guillemets, par ce qui se passe en Pologne parce que je suis bilingue. Donc, je ne vais pas vous citer les déclarations des évêques polonais là-bas, c'est pas la peine, mais ils marchent carrément sur la tête.
Mmh. Bah si, citez-nous les réactions des évêques polonais pour voir.
Eh bien, ils disent que, par exemple, c'est la faute des enfants.
D'accord.
Que les enfants sont trop dociles, se blottissent contre le prêtre, et le prêtre ne peut pas résister.
Mmh. Super.
Voilà.
On a bien compris.
Vous voyez ouais. Un petit peu, je pourrais vous en...
Je vois très bien.
Mais c'est pas la peine.
Marc, je suis désolée de devoir vous interrompre. La ligne est vraiment pas bonne. J'imagine que vous êtes sur haut-parleur et que c'est pas forcément une bonne idée. Juste en un mot, répondez-moi par oui ou par non pour que ce soit rapide. La commission d'enquête parlementaire, vous seriez d'accord, vous ou pas? Ah, bah oui, il est parti.
Je l'ai dit avant.
Ah, d'accord. Totalement d'accord.
D'urgence.
On a bien compris. Merci beaucoup, Marc, pour d'avoir entamé cette discussion. Finalement, il y a beaucoup de choses dans ce que vous nous racontez pour en parler ensemble jusqu'à 20h sur France Inter ce soir. Olivier Bobineau est là, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue, membre du groupe Société Religion Laïcité Sorbonne CNRS. Vous êtes co-auteur avec Pascal Magnat de L'Empire, une histoire politique du christianisme. Le deuxième livre, c'est aux arènes, et le deuxième livre, il est disponible, il vient de sortir, c'est une BD pour comprendre l'histoire du christianisme. Et bonsoir Alexandre Dussault.
Vous êtes bonsoir.
Cofondateur de l'association La Parole Libérée qui s'est créée après les révélations notamment des agissements du père Prena autour de donc Monseigneur Barbarin. Olivier Bobineau, qu'est-ce qu'on peut répondre à Marc, notre catholique polonais qui a fait marche arrière? D'abord, est-ce que cette marche arrière, comme il le dit lui-même, vous la sentez chez les catholiques depuis les histoires de pédophilie ou pas? Cette marche arrière des catholiques?
Oui, dans la mesure où, de fait, ça touche y compris à la foi des famille, mais également des enfants. Et dans les textes d'ailleurs, y compris l'Évangile, celui par qui arrive le scandale est celui qui fait perdre la foi aux plus petits. Et il eût fallu mieux qu'il ait une meule de moulin autour de cou jetée dans la mer. Donc ce qui scandalise est Jésus lui-même, au regard au moins des rédactions de l'Évangile de Marc et de Matthieu, c'est précisément ça. Donc on a observé dans notre enquête, qui a duré 6 ans, avec Constance Lalot et Joseph Merlet, qui a fait l'ouvrage Le Sacré Incestueux, les prêtres pédophiles, on a bien vu que, et l'argument développé par notre auditeur sur, en effet, c'est la faute des enfants, on a observé ça dans de nombreux cas où on rejetait finalement la faute, si l'on peut dire.
Aujourd'hui encore,
et
donc.
Sur les enfants. Et alors, ce qui est important, c'est qu'on a vu, durant ces 6 années d'enquête également, c'est la même chose pour les familles, où il y a de l'inceste. C'est la même chose aussi dans d'autres structures d'accueil collectif de mineurs, qui aussi, les personnes prises un peu la main dans le sac, si l'on peut dire, pardonnez-moi, eh bien, rejettent la faute sur les enfants. Mais parce que c'est en effet une victime facile à culpabiliser.
Mais ce qui est fou, je vais vous donner la parole dans un instant, Alexandre Dussault, bien sûr, ce qui est fou dans l'Église, c'est le chiffre, en fait. Parce que qu'il y ait des cas de pédophilie dans, l'éducation nationale ou je ne sais quoi, sûrement, bien sûr, dès qu'on est proche des enfants, il peut y avoir des risques de ce genre. Mais là, on parle quand même d'un nombre absolument ahurissant. Pardon de le dire comme ça, il y a une prévalence dans l'Église ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une prévalence de pédophilie dans l'Église ou pas ?
Alors, au bout de ces 6 ans d'enquête, d'abord le nombre, on est en train de le découvrir, puisqu'il a fallu la circulaire de mai 2011 de Benoît XVI s'en remettant à la justice des États et des civils. Donc, à mon sens, nous sommes qu'au début en France du volume de ces déclarations. Mais par ailleurs, nous, on n'a pas pu faire une enquête, mais ce qu'on a découvert, c'est que dans des structures, y compris des organisations humanitaires, là où il y a des occasions de fréquentation et de rencontre entre des éducateurs qui bénéficient d'une autorité, on va dire une autorité paternelle, une autorité morale, juridique, qui fréquente des enfants, eh bien précisément, oui, il y a là une situation propice au crime pédophilique.
Alexandre Dussault ?
Non, sur le sujet, évidemment qu'il n'y a, à mon avis, pas de prévalence dans l'Église catholique. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a, du fait de la hiérarchie, une industrialisation du silence qui s'est mise en place depuis de nombreuses années, voire même tout le temps, où il y avait finalement les évêques qui protégeaient les prêtres et les prêtres qui étaient déplacés et qui recommençaient leurs actes pervers. Ce qui est vrai aussi, c'est que dans la religion catholique, mais dans les religions, contrairement aux autres, on va dire, institutions en rapport avec des enfants, donc moi je parle principalement pour la religion catholique, il y a une arme d'emprise spirituelle qui est très très forte, et là c'est une arme, quand vous mettez ça dans les mains de pervers, qui est une arme de destruction massive, parce que quand un prêtre effectivement vous dit « je suis ton père », on est sous le joug de Jésus, etc. Donc ça c'est quand même une particularité des religions qui mettent en place une emprise qui est spirituelle, qui est très grave.
Donc avec quelque chose, c'est pour ça que vous faisiez la comparaison d'ailleurs avec les familles, Olivier Bobineau, qui est du domaine de l'inceste, en fait, enfin, quelque chose qui
absolument
se passe comme ça dans la tête,
c'est un sacré
notamment,
incestueux,
des prêtres.
Et ce qui explique qu'on n'a pas encore, et il faudrait, à mon sens, lancer une commission parlementaire sur l'Église catholique, mais aussi sur d'autres institutions, et à commencer par les familles, mais le sujet est tabou. Je me rappelle avoir fait des études, au départ, en sociologie rurale et en milieu rural, mais c'était tabou. Et Dieu sait, si l'on peut dire, qu'il y a là aussi des abus sexuels commis. Pourquoi ? Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que un crime pédophilique ? C'est un abus de pouvoir d'une autorité morale juridique. Et en effet, comme vient de le dire Alexandre, dans l'Église catholique, cette autorité morale, ce père, qui n'est certes a priori pas le père biologique, mais bénéficie d'une légitimité, pour reprendre les termes du sociologue Max Weber, qui vient d'en haut, qui vient de Dieu, qui s'inspire, c'est l'homme de Dieu, le prêtre. Et dans les familles, le père, ben c'est le père. C'est le père biologique qui a aussi l'autorité morale et sur son enfant, on ne croira pas à l'enfant.
Alexandre Dussault, avant qu'on retourne au standard, est-ce que vous pensez, vous, comme Olivier Bobineau, qu'on risque de trouver aussi plus de cas chez nous en France, notamment dans des proportions d'ailleurs comme celles qu'on a pu voir en Australie ou ailleurs?
Alors, le mouvement commence, hein, la parole est très délicate, et notamment en France, on voit sur les violences sexuelles, c'est quand même très compliqué d'en parler. Ce que l'on voit, notamment dans notre association La Parole Libérée et dans d'autres associations, ce mouvement-là, qui est quand même assez mondial, et en France, qui ne fait que commencer, touche une génération qui veut parler, qui est à peu près la génération des cadras, des trentas, qui ont maintenant la possibilité de parler et qui n'ont plus peur. Les cas les plus jeunes, c'est encore très compliqué.
Et plus vieux aussi, en fait, vous avez raison de le dire, c'est plutôt trentenaire, quarantenaire, effectivement.
Qui commence à parler, parce qu'effectivement, c'est dans les vies, notamment personnelles, il y a des mécanismes qui font que ça ressurgit très rapidement.
J'ai dit, en effet, nous sommes qu'au début du volume, mais en aucun cas, me semble-t-il, ça n'atteindra le volume en Irlande ou aux États-Unis ou même en Allemagne pour une simple et bonne raison. C'est que nous sommes dans une société particulièrement sécularisée, où les occasions de rencontre entre des prêtres et des enfants sont beaucoup plus faibles.
Philippe, bonsoir.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu au téléphone sonne, Philippe, on vous écoute.
Merci d'avoir accepté mon témoignage. Alors, moi, je ne suis ni trentenaire, ni quadra, j'ai 58 ans.
C'est pas grave.
J'ai croisé un prêtre pédophile quand j'en avais 12, en 72. Mais surtout, ce que je voulais dire ici, c'est que j'ai rencontré à peu près une dizaine de prêtres depuis 1976 à qui j'ai raconté cette histoire. Et moi, ce qui me frappe, et ce qui me frappe toujours aujourd'hui, 7 octobre 2018, c'est la confusion mentale qui me semble habiter les esprits de la hiérarchie catholique, notamment sur le fait que, je ne reviendrai pas sur le crime, l'autorité, etc., mais sur le fait que je n'ai senti pratiquement jamais que les hommes d'église étaient capables de se mettre de manière inconditionnelle du côté de la victime, et la seule victime qui soit, c'est celle qui a subi l'agression. Et alors que le pédophile est aussi, du point de vue de l'Église catholique, une victime. Hein, c'est-à-dire que, voilà, il est victime de ses pulsions, il est victime de je sais pas quel dérèglement mental ou de je sais pas quoi. Et donc c'est une victime auquel il faut pardonner, auquel il faut... Voilà. Et donc, si vous voulez, il y a une confusion entre qui est la victime et qui est l'agresseur.
Merci. Pardon, Philippe. Vous aviez fini, pardon. Excusez-moi, finissez.
Non, voilà. Donc j'ai été le témoin sur 40 ans de ça, et je vois pas les choses évoluer. Donc moi, c'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, ben, je me suis éloigné de l'Église catholique, parce que je vois vraiment qu'elle marche toujours à deux à l'heure, quoi.
Merci Philippe pour ce témoignage. Alexandre Dussault, je vous voyais approuver de la tête en écoutant Philippe.
Je ne peux qu'acquiescer parce que je l'ai vécu. En fait, j'irais même plus loin, il y a une incapacité d'indignation de la hiérarchie qui fait peur et qui participe. Parce que on peut dire des pervers, des pédophiles, il y en aura de partout, il y en a dans des familles. Mais là, c'est très particulier, c'est-à-dire que même quand vous en parlez à d'autres personnes, d'autres prêtres, les évêques, etc., finalement, on jongle entre une espèce de justice et de miséricorde qui met la victime finalement dans une position où elle ne peut que pardonner et passer sous silence.
Olivier Bobigno, il parlait de confusion mentale, notre auditeur Philippe, mais effectivement il y a une confusion du pardon aussi, c'est ça qui est intéressant dans son témoignage en fait.
Oui, alors il peut y avoir des aspects en effet théologiques de pardon, c'est-à-dire que notamment des pédophiles que les psychologues irlandais et américains appellent fixés, ou là pour des raisons génétiques, mais aussi des pédophiles régressifs qui en fonction d'un environnement vont passer à l'acte. Il y a cette notion du pardon qui est inhérente à la religion chrétienne. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la singularité de l'Église catholique par rapport à ça, c'est que depuis qu'elle est créée, elle a, jusqu'à 2011, toujours géré en interne, au nom du droit canonique qui la régit.
C'est bien de rappeler cette date, hein, c'est hier 2011. Vraiment.
2011, ouais. C'est hier. Ouais. Donc à l'échelle d'une institution qui a 1500 ans, la curie, le gouvernement de l'Église catholique, la curie est fondée en 1089. Donc entre 1089 et 2011, 922 ans, toutes les histoires de mœurs, toutes les histoires pédophiliques ou autres, y compris de corruption, sont gérées en interne. Et là, j'allais dire, le pape Benoît XVI a fait un acte majeur pour la première fois de l'histoire de cette institution. Eh bien, il a dit, on s'en remet à la justice des États et à la justice civile. Sauf qu'il ne faut pas oublier que dans l'inconscient, les prêtres, les séminaristes, on leur a appris, durant leurs 6 ou 7 années d'études, c'est en droit interne, c'est le droit canon. Donc on ne peut pas changer comme ça aussi, si vous le permettez, du jour au lendemain, les pratiques institutionnelles, instituées, et y compris chez leurs acteurs.
Mais enfin, quand même, à ces époques-là et avant 2011, il y a bien eu des plaintes qui ont été déposées. Ces plaintes l'ont été devant des commissariats. Il y a bien eu des... À un moment, ces histoires sont sorties de l'Église, quand même. Comment se fait-il, Alexandre Dussault, que à chaque fois, on y retourne, finalement, que ça revienne à l'Église? Il y a bien eu quelques plaintes, quand même, même si, comme on le sait toujours dans ces affaires-là, il y a beaucoup moins de plaintes que d'actes.
Alors, au niveau des plaintes, évidemment qu'il y en a eu. Moi, je vois dans le cas du père Prénat, les premiers mouvements qu'il y a eu, en tout cas, c'était de se tourner vers le diocèse pour être aidé. Et effectivement, c'était plutôt réglé en interne où on faisait un peu pression sur les parents pour se taire et de dire que oui, on prenait les choses en main on n'en parlait plus. Moi, dans mon cas, par exemple, on m'a proposé de rencontrer le prêtre pour qu'il me demande pardon. Et je reprends ce qu'a dit l'auditeur tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez le prêtre qui vous a violenté sexuellement, qui vous demande pardon, vous êtes quasiment dans l'obligation d'accepter son pardon et puis après de retourner vivre une vie normale. On vous met dans une situation qui est une impasse pour les victimes du fait de cette miséricorde qui est ancrée et qui est, à mon avis, très dangereuse à mettre dans l'inconscient.
Olivier Bobineau.
Une donnée fondamentale, c'est le statut de l'enfant. Je vous rappelle qu'à la fin, on en parlait tout à l'heure, à la fin des années 70, il y a des émissions que je nommerai pas comme Bouillon de culture, où des intellectuels, des hommes politiques, des femmes politiques et des philosophes disent avoir passé la veille et la nuit avec des enfants et des adolescents. C'est-à-dire que nous avons affaire, comme le disent des sociologues de l'enfance, à la décennie de l'enfance. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? L'enfant avant les années 80-90, il n'a pas le droit. De droit, la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est 1989. Avant, c'est un objet qui prendra en charge, dans une société traditionnelle, si l'on peut dire, il prendra en charge à la vieillesse ses parents. Il est là, éventuellement, parfois, comme main-d'œuvre. Mais en tant que tel, la dignité de l'enfant, il faudra attendre dans nos sociétés la criminalisation, c'est les années 90.
Bonsoir Guillaume.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu Guillaume, allez-y, on vous écoute.
Oui, moi, c'est vrai que j'aurais bien voulu qu'il y ait un membre de la hiérarchie catholique pour y répondre, comme Mgr Pontier, par exemple, qui est président de la Conférence des évêques de France. Voilà, moi, je veux bien apporter mon témoignage quand même en tant que simple catholique pratiquant, jeune catholique, jeune papa aussi, d'une petite fille qui a bientôt 2 ans, qui côtoie déjà des prêtres, et je voulais porter vraiment un message de confiance dans cette église, et particulièrement l'église de France, qui m'a fait grandir, qui continue à me faire grandir, j'espère qu'elle fera grandir aussi mes enfants. Alors pourquoi cette confiance, malgré une vraie tâche qui restera longtemps marquée sur l'Église aujourd'hui, et je pense qu'on est qu'au début de nos découvertes, parce que je pense que vraiment l'Église, et en particulier l'Église de France, a pris les choses en main. Moi j'ai apprécié notamment ce que votre intervenant vient de dire sur le fait que il y a un changement de mentalité qui est long à faire, mais je pense vraiment que depuis 4-5 ans, l'Église de France a passé ce gap-là. Et je le vois concrètement dans ma paroisse, où on a des jeunes prêtres, qui ont tous, on a 3 jeunes prêtres qui ont moins de 40 ans, qui ont, lors de leur séminaire, ont été vraiment formés à l'affectivité, parce que il est vrai que l'Église fait le choix d'avoir des hommes célibataires qui doivent gérer leur sexualité. Et ça s'apprend, et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Donc on a aujourd'hui des jeunes prêtres, pas suffisamment, mais on a un renouveau des vocations, qui est vraiment une vraie chance pour la France, puisqu'il y a vraiment qu'en France, dans les pays proches européens, il n'y a qu'en France où il y a ce renouveau-là de l'Église.
Olivier Bobineau fait non avec la tête, mais finissez Guillaume, bien sûr, allez-y. Sur le chiffre, en fait, c'est sur les chiffres qui dit non.
Quand on voit la communauté Saint-Martin qui a 150 séminaristes, qui est en croissance, il y a toutes les communautés nouvelles, la communauté d'Emmanuel entre autres, où également il y a beaucoup de jeunes prêtres qui arrivent, donc il ne faut pas regarder les diocèses, mais il faut regarder aussi les communautés nouvelles. Ah,
donc les communautés charismatiques et pas seulement les diocèses. Pardon de vous interrompre Guillaume, juste encore une fois, et on est ravis pour vous que ça se passe bien évidemment, pour vous, je voudrais juste qu'on avance sur le chiffre Olivier Bobineau rapidement, parce que ce que dit Guillaume sur les jeunes prêtres, ça m'intéresse aussi. Les vocations en France ?
Les vocations aujourd'hui, on ordonne moins de 60 prêtres en France. Je rappelle juste que l'année dernière, sur le continent africain, il y a eu un développement des séminaristes de 483%. Donc c'est pas la même mesure, même si notre auditeur, il a raison de le souligner, sur le pourcentage de ces 70 ordinations, la très très grande majorité vient des communautés nouvelles ou de la communauté Saint-Martin qui vient d'être évoquée, qui correspond à une tendance proche de la tradition catholique qui, par ailleurs, a un certain regard critique sur la modernité.
Alors, il y a des choses qui m'intéressent dans ce que dit Guillaume à l'instant sur la manière dont on parle aux séminaristes. Allons-y franchement, est-ce qu'il y a une éducation sexuelle des prêtres? Est-ce qu'il y a une immaturité du corps et de la sexualité chez les jeunes séminaristes? Et est-ce que c'est pas par là que ça commence tout ça, en fait, Olivier Bobineau? Avant même de parler de célibat, parce que c'est même une autre question, mais je connais mon corps, je sais comment ça fonctionne, je connais mes pulsions, enfin des choses basiques, quoi.
Alors, au bout de 6 ans d'enquête, nous avons rencontré les directeurs, des directeurs de séminaires, nous avons rencontré des évêques, bien entendu. La première conclusion, c'est l'une d'ailleurs des remarques que nous faisons à la fin du livre, Le Sacré Incestueux, c'est très simple. Il n'y a pas, aujourd'hui, de formation en sciences humaines du corps et de la sexualité. Mmh. Je parle d'aujourd'hui. La sexualité est vécue et dans les formateurs qu'on a rencontrés,
ça n'existe pas,
dans
de fait,
professeurs
la sexualité
qui interviennent dans les séminaires, elle est vécue comme sublimation. Nous avons entendu des choses comme désincarnation, c'est-à-dire sublimer d'une façon votre sexualité par la prière, par le divin. En aucun cas, ça relève de notre société moderne, y compris érotisée, où on parle facilement des relations sexuelles, et de fait, ils ne sont pas du tout préparés d'un point de vue de sciences humaines. Alors, d'un point de vue théologique, on va parler de la sexualité, mais c'est pas d'un point de vue de vie quotidienne, de pratique et d'analyse, y compris de ses propres sentiments affectifs et de sa propre sexualité. Nous avons rencontré l'une des grandes formatrices théologiennes, dont je tairai le nom, qui nous a dit, c'est une catastrophe sur ce point de vue-là.
Alexandre Dussault, ça ne m'étonne guère, en fait, ce que nous raconte Olivier Bobineau. Et ça commence peut-être là, le problème.
Alors, ça commence peut-être là, mais je ne suis pas sûr que, parce que vous avez une éducation sexuelle au séminaire, que ça n'en fera pas des pédophiles. Si vous êtes pédophile, vous pouvez effectivement vivre votre vie complètement normalement sans être un pédocriminel.
Ça peut permettre la détection.
Mais ça peut effectivement permettre la détection. Ouais. Il faut quand même penser, dans tous les prêtres que l'on a vus, effectivement, qui avaient été condamnés, en tout cas, ou les victimes nous en ont parlé, à chaque fois, les prêtres qui étaient des pédocriminels étaient quand même des prêtres qui étaient très intelligents, très manipulateurs, et à mon avis, qui passait beaucoup de filtres au séminaire de toutes les manières. Alors effectivement, c'est bien une formation de cet acabit, mais je pense que c'est pas suffisant.
Pas seulement une formation, c'est l'idée d'en parler, en fait, de mettre les mots sur des choses.
Il faut aussi, d'un point de vue maintenant des pratiquants, aussi permettre aux pratiquants d'avoir une vision beaucoup plus terre à terre du prêtre, sans penser qu'il doit être mis sur un piédestal et avoir la vérité. Je pense qu'il y a aussi cette formation qu'il faut avoir. Il faut que les prêtres aussi, beaucoup de prêtres, reviennent à un certain niveau pour être au service d'eux et non plus le contraire.
Deux choses rapides par rapport à cela. En effet, la désacralisation de l'homme de Dieu, de l'homme à part, etc. En aucun cas, il est à part, aujourd'hui du moins dans nos sociétés modernes, de ce point de vue-là. Et d'autre part, les formations au séminaire sont accompagnées d'une direction spirituelle. Et nous, notre proposition, c'est qu'y compris dans cette direction spirituelle, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, eh bien, le directeur qui accompagne l'affect, l'élaboration du sentiment chez le futur prêtre, en l'occurrence le séminariste, eh bien, qu'il puisse aborder ce sujet-là. Et de fait, ce n'est pas abordé, c'est tabou. Et là, il me semble que ça serait un moyen d'accompagner et de détecter certaines choses.
Bonsoir Isabelle.
Oui, bonsoir.
Allez-y, vous êtes un peu dans le thème, donc allez-y.
Ma question est la suivante. Je voudrais savoir pourquoi on nous attend d'en parler que d'affaires de prêtres catholiques et jamais d'affaires des autres ministres des autres églises. Ce ne sont pas des saints, il y a forcément des affaires. Alors je voudrais savoir, évidemment ils sont moins nombreux, donc toute proportion gardée, est-ce qu'il y a moins d'affaires parce qu'ils sont mariés, donc ne s'attaquant pas aux enfants faibles? Est-ce qu'ils ont moins de contact direct avec les enfants parce qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper des mouvements scouts ou des patronages? Ou est-ce que parce que les affaires passent directement au pénal tranquillement sans que cela fasse remous dans le public ou dans la presse?
Merci beaucoup Isabelle, bonne question. Olivier Bobineau, la raison pour laquelle on n'entend pas parler dans les autres religions, c'est quoi?
J'y vois deux choses. La première, c'est que en effet, les occasions de rencontres entre un ministre du culte.
Il n'y a pas de scout, il n'y a pas de caté, équivalent caté dans les autres catéchismes.
Il n'y a pas autant de structures existantes. Et par ailleurs, mais il n'y a pas eu d'enquête. Nous avons eu connaissance de crimes pédophiliques, en effet, dans les autres confessions et exercés, et d'abus sexuels d'autres ministres du culte. Mais il n'y a pas
Mais il n'y a pas de clergé non plus, bah, en fait.
Voilà, c'est la grande différence. Il y a une différence de ce point de vue-là, même s'il y a des ministres du culte, c'est-à-dire des personnes qui ont une autorité morale, juridique, spirituelle, s'appuyant sur une légitimité qui vient d'en haut, une légitimité dite, considérée comme divine. Donc, il y a tous les éléments pour qu'il y ait en effet des abus sexuels.
Mais pas au point, il n'y a pas d'une hiérarchie aussi lourde que la hiérarchie catholique, avec un chef de l'Église qui est le pape, des cardinaux en dessous, etc. Il n'y a rien d'aussi clair que ça. Mais ça veut dire que le fait d'être marié, ça n'a rien à voir, en fait.
Bien, ça n'a rien à voir. Enfin,
donc ça veut dire que c'est pas le célibat des prêtres qui pose problème, c'est ça l'idée, en fait.
En aucun cas.
De fait, dans quelle mesure, dans la mesure où ça pourrait poser un problème, si, on pourrait envisager cette hypothèse du célibat des prêtres, s'il n'y avait pas d'inceste. Mais c'est pas parce que vous avez des relations sexuelles, il faut distinguer les relations sexuelles de l'attirance. C'est une singularité très particulière de l'attirance et du passage à l'acte, puisqu'au fond, qu'est-ce qui est en jeu, tout simplement, dans l'acte sexuel avec des enfants, c'est la domination. C'est le fait de s'attaquer et de profiter d'un enfant mineur dont la parole ne sera pas entendue et de profiter de cet abus de pouvoir.
Mais il n'y a pas un passage à l'acte plus fréquent lorsqu'on a une sexualité qui n'est pas du tout épanouie,
avec
en
adulte.
Fait, pas du tout.
Non, je ne pense pas, puisque finalement, dans les familles, qui est quand même le principal endroit où les crimes pédophiles interviennent, il n'y a pas cette question-là.
Vous vouliez ajouter quelque chose?
Je voulais ajouter quelque chose, parce qu'on dit souvent qu'effectivement, seuls les crimes pédophiles sont mis en éclairage dans l'Église catholique. En fait, à la parole libérée, évidemment, c'était notre histoire. C'est pour ça qu'on a lancé ce mouvement très important. Mais quand on s'intéresse, en tout cas, quand maintenant on est conscient de ce qui se passe, notamment sur l'ensemble des violences sexuelles, vous verrez que dans les journaux, les faits divers, il y en a tout le temps, et pas que dans l'Église catholique. Et je rajouterais quelque chose, c'est que c'est si important qu'il n'y a plus maintenant une intervention du pape où il n'en parle pas, ce qui prouve quand même qu'à l'intérieur de l'Église catholique, c'est un vrai schisme, un vrai problème qui est en train de détruire l'Église et qu'il faut absolument maintenant essayer de résoudre ce problème.
Il ne peut plus ne pas le voir, Olivier Bobineau.
Oui,
il ne peut plus fermer les yeux.
Je rappelle quand même la lettre au peuple de Dieu du 20 août où il met carrément le paquet sur le cléricalisme, l'abus de pouvoir, l'abus de conscience de ces prêtres qui ont commis ce crime à l'égard des enfants.
Ce qui est important. Bonsoir Daniel.
Allez, bonsoir. Moi je vous appelle parce que j'ai vécu en Australie pendant une vingtaine d'années. Et en fait, il y avait beaucoup d'affaires de crimes sexuels dans les institutions religieuses. Et puis en fait, elles étaient toujours traitées comme des choses anecdotiques. C'est ici, c'est là. Et c'est des cas isolés, des cas individuels. Et en fait, ces histoires, quand même, on faisait un bruit de fond qui est devenu assez important. Et là, jusqu'au moment en 2013, où la première femme première ministre d'Australie a dit « Bon, ok, ça, on va faire une commission d'enquête royale sur les crimes sexuels. » Alors, pour ne pas cibler uniquement les institutions catholiques qui étaient quand même, qui étaient où les histoires étaient les plus importantes, en fait, elle a demandé à ce que la commission d'enquête fasse son enquête dans toutes les institutions, catholiques, anglicanes et même laïques. Et cette commission d'enquête donc a fait un appel aux témoins et ils ont été surpris par le nombre de personnes qui se sont présentées. Et ils attendaient 1000, 2000 personnes et en fait ils ont eu 16 000 personnes qui ont demandé à témoigner. Et ils ont identifié des crimes sexuels dans plus de 4000 institutions. Et l'Australie, c'est un petit pays. Hein. C'est pas 4000 institutions, ça veut dire que c'est dans tous les États, dans beaucoup de villes, les campagnes. Et au bout de 5 ans, la commission a rendu son rapport et qui a permis de mettre la vérité à jour et de donner la parole aux victimes et de permettre d'avancer, quoi.
Merci beaucoup Daniel. Olivier Bobineau, commission d'enquête royale en Australie, commission Ryan en Irlande, effectivement. Est-ce que dans ces cas-là, c'est une manière de dire à l'Église c'est trop compliqué pour vous, c'est même pas que vous ne savez pas faire, c'est que vous ne savez pas en fait par quel bout prendre ce problème-là, donc on va s'en occuper. Est-ce que nous, et notre, vous parliez de notre très grande laïcité, est-ce qu'on a cette marge de manœuvre, la même marge de manœuvre au fond ou pas ?
Dans la mesure où l'Église catholique, mais pas seulement, bénéficie de subventions et de fonds publics, il est possible de faire une enquête parlementaire. Mais il me semble que se focaliser ou se restreindre uniquement sur l'Église catholique pose, à mon sens, sans doute deux problèmes. Le premier, c'est que ça ne pose pas le sujet de fond quand même, c'est la pédophilie. Donc il faudrait aussi proposer une enquête, et la Commission royale l'a montré, dans toutes les institutions qui accueillent et mettent en lien, en contact, des enfants, des mineurs, avec une autorité morale juridique, déléguée par les parents. Donc l'ensemble des institutions, et deuxièmement, peut-être, me semble-t-il, le risque qu'il peut y avoir à uniquement focaliser sur l'Église catholique, ça risque d'être contre-productif, au sens où, une fois qu'on a réglé son compte, c'est fini, on s'en lave les mains, si l'on peut dire, et on passe à autre chose. Ou même, on va dire, eh ben voilà, elle a été prise d'assaut, bouc émissaire, donc ça a été par une bande, on va dire, d'anticléricaux.
Une bande
et
de laïcs.
La guerre des deux France revient au goût du jour, etc. Et ça me semblerait, d'un point de vue tout simplement de service, et de penser aux victimes et aux enfants que nous avons rencontrés, ça ne me semblerait pas pleinement bénéfique.
Me semble-t-il.
Oui, alors, que ce soit en Irlande ou en Australie, on ne peut pas considérer que c'est des bandes de laïcs, justement. Et je pense que les commissions d'enquête, notamment la commission royale australienne ou la commission Ryan, c'était pas pour dire « vous ne savez pas », c'est que vous savez trop bien, justement, cacher tous ces crimes-là.
On n'a pas confiance.
Il faut extérioriser parce que, encore une fois, l'institution même a organisé le silence de manière hiérarchique depuis de très nombreuses années. Et nous, ce que nous demandions effectivement à la parole libérée, c'est effectivement faire une commission d'enquête, mais pas forcément focalisée sur l'Église, mais sur l'ensemble des institutions, comme cela s'est passé en Australie, accompagnant, étant en relation avec les enfants. Juste le chiffre de tête sur la commission australienne, je crois que 68% des crimes étaient liés à des institutions religieuses, et je crois qu'il y avait 37-38% qui étaient liés directement à l'Église catholique. Donc ça a mis en exergue à la fois des chiffres et une objectivité très forte. On arrive à peu près à 4,75% de prêtres pédophiles en Australie, par exemple.
Olivier Bobineau, très vite,
très important l'extériorité, en effet, pour une simple et bonne raison, c'est que la définition même d'une institution, c'est d'être stable dans le temps. Ça donne le terme statut, ça donne le terme état, et qu'en effet, elle se protège, une institution prend tous les moyens pour se protéger de toute chose qui pourrait faire des vagues.
Florence, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue, Florence, on vous écoute.
J'ai des amis qui sont prêtres dans le cadre de la mission de France et eux disent que la formation au séminaire n'est pas assez étoffée. Ils s'en rendent tout à fait compte. Ce sont des hommes qui sont en contact avec des enfants dans des missions vers le scoutisme ou autre. Ils font toujours attention d'être avec d'autres adultes, des femmes et hommes, des couples notamment, et de n'être jamais seul avec des enfants, ils se rendent très bien compte du manque de leur formation.
Mais qu'est-ce qui manque dans la formation? Qu'est-ce qu'ils disent, Florence, vos amis? Est-ce que c'est, faut nous expliquer exactement ce qu'on a le droit de comment on doit se positionner par rapport aux enfants, ou c'est par rapport à eux?
Non, je dirais que c'est plus psychologique, en
D'accord.
fait. Voilà, tout simplement, comment ils sont, eux, dans leur sexualité. Et ils sont tout à fait clairs avec ça. On en a parlé encore il y a quelques jours. Effectivement, nous en parlons souvent dans nos réunions, parce que là, en ce moment, ça nous est très douloureux. Mm-hmm. Et ils disent, non, nous ne sommes pas assez formés. Et ceux qui sont prêtres, ceux qui vont devenir prêtres, doivent avoir une formation psychologique, un vrai questionnement personnel, sur leur sexualité et revenir de façon extrêmement pointue sur l'absence de sexualité avec une femme et comment ça va être choisi. Et ce n'est pas en disant, disent-ils, hein, ce n'est pas en disant « Dieu y pourvoira, vous recevrez des grâces en temps voulu ». Non, non, non. Ils sont très clairs là-dessus.
Olivier Bobineau approuve. Effectivement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Merci beaucoup, Florence. Olivier, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est la grâce divine, ça marche pas.
C'est très intéressant parce que la mission de France, rappel historique, ce sont les anciens prêtres ouvriers. Et à partir de 64, il va y avoir une transformation en mission de France, prêtre au travail. Ce qui est très important, c'est que les séminaires de mission de France est centré sur les sciences humaines. Donc on pourrait dire que c'est la pointe, d'une certaine façon, de la formation. Eh bien, y compris, en effet, connaissant aussi la mission de France, ils ne sont pas formés sur cet aspect-là à la mission de France. C'est-à-dire les plus ouverts sur les sciences humaines, sur les disciplines qui pourraient permettre du recul, du travail sur soi, du travail sur la compréhension de la société moderne, eh bien, cela est encore tabou.
Qui dispense ces formations-là? Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il y a des gens, j'allais dire, de l'extérieur, qui rentrent dans ces formations-là, qui n'ont rien à voir avec la foi catholique et qui donc peuvent parler totalement à plat de sexualité, etc. Et qui rentre dans ces formations?
Ça dépend des groupements religieux. Tout à l'heure, on a entendu parler de la communauté Saint-Martin. À la communauté Saint-Martin interviennent des catholiques pratiquants. Dans la mission de France, ils font appel, y compris, j'allais dire, des experts qui ne sont pas nécessairement croyants. Mmh. Ça dépend beaucoup des séminaires.
Juste un dernier mot, et ce sera la phrase de conclusion, Alexandre Dussault.
Non, dans cet exemple sur un sujet qui est quand même terrible, ce qu'il faut retenir quand même, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que même les prêtres libèrent leur parole, mm-hmm. et c'est peut-être ça. C'est-à-dire qu'il faut que les prêtres parlent effectivement de leurs doutes, mm-hmm. et on voit qu'effectivement, à la mission de France, ils commencent à faire le travail, et je pense que c'est un bon pas vers le meilleur.
Et on espère qu'ils savent à qui s'ouvrir, effectivement, les prêtres, à qui dire, à qui raconter ces soucis qui sont les leurs. Merci beaucoup, merci à vous deux. Merci à tous pour vos appels et portez-vous bien.